aujourd'hui avec Mgr Jacques Turc.
Marie ne cesse de vivre une série de détachements successifs et douloureux. Je vous en citerai plusieurs, 4 en tout. D'abord avec Joseph lors du pèlerinage au temple de Jérusalem. Comme tous les Juifs, le pèlerinage à Jérusalem est un moment important. Chaque année, il devait y aller. Marie ne cesse de vivre, elle aussi, à ce moment-là, avec Joseph, un détachement. Des détachements successifs. Comme pour toutes les autres mères, c'est un arrachement et un consentement tout à la fois qui révèle une affection et une tendresse pour que l'enfant grandisse, un enfant qui va lui échapper. Pour la chair de sa chair, cet enfant lui échappe. Les moments d'obscurité semblent toujours accompagner l'enthousiasme de Marie. Au jour de sa naissance, au temple, sur les routes d'Israël, sur le chemin de la croix, à l'échange du Fils, à la mort. Puis, dans l'attente de l'Esprit-Saint, au moment de la naissance de l'Église, en tous ces moments, Marie est là, et elle se décentre d'elle-même. Dans le pèlerinage au temple de Jérusalem, Marie et Joseph vivent un détachement douloureux. Jésus a 12 ans, Marie et Joseph font confiance, ils ne le suivent pas à chaque minute. Au cours du voyage, de retour, à l'étape du soir, ils ne le trouvent pas. Jésus a disparu. Combien de mères seraient dans une inquiétude folle, mais comme Marie, alors ils se mettent à sa recherche. Ils le cherchent pendant 3 jours, et les 3 jours sont importants pour nous. Rappelez-vous, le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé pour le Christ qui a disparu, dont on dit qu'il est ressuscité. Nous imaginons leur inquiétude, leur crainte. Ils retournent à Jérusalem et là, le trouvent au milieu des docteurs dans le temple, qui ont l'air ravis de parler avec lui. Et Marie prend la parole. Ce n'est pas Joseph qui parle. Une parole pleine d'affection, mais où l'on perçoit une certaine déception. Elle associe Joseph à ce qu'elle va dire. « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Son amour maternel pour Jésus commence à la faire souffrir. Elle réalise peu à peu la distance qui s'établit avec ce fils à la destinée si mystérieuse. Et cela la blesse au plus profond. Marie se rend compte que l'éclair du miracle, celui de la conception de Jésus, ne se reproduira pas. Elle devient une mère comme les autres, avec un fils qui, par moments, lui fait de la peine. Le réjouis-toi initial pour ce fils ne dure pas. Marie devient une mère comme les autres, avec toute l'anxiété qui monte des profondeurs de ses entrailles, l'anxiété d'une mère qui perd son fils. La joie initiale semble lui être confisquée. L'invitation à se réjouir portée par Gabriel lui échappe. Une invitation qui s'adresse à son peuple, à la fille de Sion plus qu'à elle-même. Oui, la fille de Sion, le peuple d'Israël, et nous pouvons nous réjouir de la naissance de Jésus. Mais là, voilà le degré d'abnégation de Marie pour que l'espérance d'Israël soit réelle. L'espérance du peuple en attente passe avant la sienne. L'espérance de Dieu qui façonne en elle passe avant Dieu, passe avant la sienne. Une espérance qui la déborde, mais qui est aussi la sienne. Marie laisse encore le Seigneur disposer d'elle, qu'il m'advienne, selon ta parole, avait-elle dit. De mère de Jésus, elle découvre ce qu'il en est d'être mère du Fils de Dieu. Le passage est rude. Nous le découvrons dans la réponse de Jésus ce jour-là dans le temple. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Pourquoi Luc rapporte-t-il cet événement ? Pour le comprendre, il convient de nous rappeler que Luc écrit son évangile quelque 60 ans après l'épisode qu'il raconte, vers l'an 80. Il écrit pour les communautés chrétiennes, qui, elles aussi, cherchent Dieu après sa résurrection. On nous a dit qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, mais où est-il, disent la première communauté chrétienne. Elles espèrent le retour imminent du Christ. Où le trouver? Où est-il 80 ans après sa mort et sa résurrection? Luc donne la réponse. Il est dans la maison du Père. Ne saviez-vous pas? Il me faut être chez mon Père. C'est la première parole de Jésus dans l'Évangile de Luc. Une parole qui projette Marie et Joseph dans un avenir qu'ils ne comprennent pas. Car la résurrection ne s'est pas encore produite. Luc écrit seulement que Marie, sa mère, méditait tout cela dans son cœur sans le comprendre. Et les docteurs de la loi, pour leur part, s'interrogent. Ils entendent les disciples dire que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Et Luc, dans son évangile, les éclaire par ce récit. Jésus, après la résurrection, est monté vers le Père. Tel est l'itinéraire que Marie va suivre. Elle nous aide à comprendre que lorsque l'amour nous entraîne à aimer avec passion, comme une mère aime son enfant, aucune mère ne demande « Où m'entraînes-tu ?» Non, à l'amour qui t'entraîne, ne demande pas « Où ?» même si cet itinéraire devient un chemin de croix. Le deuxième détachement douloureux vécu par Marie se produit au terme de la première prédication de Jésus dans l'évangile de Luc, alors que Jésus est chassé de son village. Après sa prédication, dans la synagogue de Nazareth, les gens qui sont là se lèvent, remplis de colère, le jettent hors de la ville de Nazareth, le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie la ville pour le précipiter en bas. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Vous vous imaginez l'humiliation de Marie dans un petit village où tout le monde se connaît, où le fils du charpentier est mis à la porte de son village. Et jamais Jésus ne reviendra à Nazareth. Marie assiste à l'échec de sa première prédication. Quelle humiliation! L'itinéraire de sainteté de Marie se poursuit alors dans la douleur. Elle va prendre la route elle aussi. Oh, ce n'est pas la première fois qu'elle est obligée au voyage, puisqu'il est né au cours d'un voyage, qu'il est emmené en Égypte. Mais après l'épisode de Nazareth, Marie le rejoint sur la route. Elle cherche à s'en rapprocher, à l'écouter. Elle écoute sa parole. Qui, à ce moment-là, a pris soin d'elle? Qui l'a hébergée? On ne sait rien. Était-elle seule? Était-elle accompagnée de Joseph? Avait-elle des amis? Rien de l'aventure de Dieu en Marie ne nous autorise pourtant à verser des larmes. Marie n'est pas une pleureuse abîmée dans l'affliction. Elle n'est pas non plus cette femme baroque qui flotte avec suavité parmi les angelots, comme trop souvent nous les représentons. Non, Marie n'est pas une femme enfant qui se réjouirait de tout et de rien. Méditons sur ce moment où Jésus est chassé de Nazareth. Une autre intervention où Marie va être encore dans la douleur. Elle va se rendre compte qu'elle n'est plus seule à être mère de Jésus. Elle ouvre le chemin à celles et ceux qui veulent devenir disciples de son Fils, et sur ce chemin, elle est la première. En effet, un jour, des amis plaident sa cause. Sa mère et ses frères arrivent près de lui, mais ils ne pouvaient la rejoindre à cause de la foule. Alors on annonce à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui se tiennent et t'attendent, ils veulent te voir. » Et Jésus répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. » En Luc 8, 19. Un autre jour, Un peu dans la même démarche, quelqu'un du milieu de la foule s'émerveille de l'enseignement de Jésus et met en lumière la fierté qui doit être celle de sa mère, Marie. Heureuse, celle qui t'a porté et allaité. Jésus rectifie. Bien plus heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Voilà la béatitude de Marie. Bienheureuse celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est bien ce qu'elle fait. Elle est la première sur ce chemin. Bienheureuse celle qui a cru. Déjà sa cousine Élisabeth avait chanté cette béatitude en reconnaissant qu'elle était la béatitude de Marie. Mais vous voyez la distance encore que Marie prend. Enfin, Marie découvre le mystère de l'heure de Jésus. La scène se déroule à Cana, en Galilée. Deux petites phrases sont offertes à notre méditation. « Mon heure n'est pas encore venue. » Et puis, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Nous sommes au troisième jour, après l'appel de Simon-Pierre, après l'appel de Jean, le troisième jour après les promesses faites à Nathanaël dans l'évangile de saint Jean. Le troisième jour, Jésus est venu en Galilée, à Cana, pour une fête de noces. Comme au troisième jour après sa mort. Ce jour-là, Jésus rejoint sa mère qui semblait déjà être sur place. Elle était sans doute en pays de connaissance, puisque cela se passe en Galilée. Elle avait pu observer de près comment se déroulait la fête. Elle se rend compte qu'il n'y a plus assez de vin et que la fête risque d'être gâchée. Jamais jusqu'ici et jamais par la suite, Marie ne demandera aucune faveur à Jésus. Mais ce jour-là, elle souhaite que la fête de l'alliance de ses époux ne cesse pas. Son audace est pour le bonheur des autres. « Que me veux-tu, femme? De quoi te mêles-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie a-t-elle entendu ce que dit Jésus? Oui, sans doute. A-t-elle compris à quelle heure Jésus la renvoyait? Probablement pas. Mais Jean, lui, qui écrit ce récit, lui a tout saisi. Il renvoie Jésus à la croix. Ou plutôt, Jésus renvoie Marie à la croix. Nous sommes entraînés bien au-delà des noces de Cana. Ce qui s'est passé ce jour-là, à Cana, est une anticipation d'une autre noce, d'une autre alliance. Ce sera aussi un troisième jour, celui de la victoire de Jésus sur la mort, celui de l'alliance nouvelle signée par le sang de Jésus, signée dans le sang versé en abondance sur la croix, comme ce jour-là, le vin coule en abondance aux noces de Cana. Ce que le pain est à la multiplication des pains, le vin l'est aux noces de Cana. L'Eucharistie est en filigrane, mais surtout l'heure du rendez-vous, l'heure de la vie livrée, l'heure à laquelle Jésus renvoie Marie. Marie ne perd pas son audace, comme si la réponse de Jésus ne lui paraît pas correspondre à ce qu'elle souhaite, comme s'il fallait forcer un peu la porte, devancer la réponse par la certitude qu'il l'accomplira. Aussi Marie invite les serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Quelle audace! Elle rend la parole à Jésus cependant. Lui, le Verbe de Dieu, indiquera aux serviteurs ce qu'il convient de faire. Vous le comprenez, au moment de la rédaction de ce récit, tout est accompli de la mission du Fils de Dieu. Marie à Cana est renvoyée au rendez-vous de la croix. Alors, elle rejoindra le « oui » de Jésus dans les profondeurs de son cœur. Elle vivra la passion de Jésus dans une peine difficile à décrire, que seules les mères qui voient mourir leur enfant peuvent comprendre. C'est l'heure à laquelle Jésus la renvoyait. Ce jour-là, quand tu seras devenue mère des hommes dans la souffrance, alors tu interviendras pour eux. Cana était la figure, l'anticipation de cette heure où l'alliance serait définitivement scellée et où Marie interviendrait auprès du Père, auprès de Jésus, encore une fois. L'heure à laquelle Jésus se réfère, celle du don total, quand ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. À Cana, Marie intervient avec audace, au début du ministère de Jésus. Et saint Jean, qui rapporte l'événement, nous donne à comprendre que du début à la fin de son ministère, Jésus est au service du bonheur des hommes. Seule une mère pouvait lui dire, dès ce moment-là, que l'heure à laquelle se réfère Jésus ne peut s'inscrire sur une horloge. Cette heure ne peut plus attendre, car il est toujours l'heure d'aimer. Tel est le message que Marie livre à son fils dans la supplique. Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus d'amour pour vivre. Pour Dieu, pour Jésus, pour nous, c'est toujours l'heure de livrer notre vie. L'heure de Marie et l'heure de Jésus se rencontrent partout où il s'agit d'aimer. Faites tout ce qu'il vous dira, nous dit encore Marie, ici à Lourdes.